voix nues. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Michel Virlogeux. Ce soir, le corps des ponts et chaussées.
Bonsoir Michel Virlogeux.
Bonsoir Virginie.
Hier soir, nous avons parlé de votre enfance, de votre scolarité au Prytané National Militaire de la Flèche. Votre père était professeur d'histoire-géographie. Vous étiez un passionné d'histoire davantage que de géographie. Nous avons parlé de votre goût pour les mathématiques et la physique, surtout pour la physique, et de votre position vis-à-vis de l'armée. Ce soir, il sera question de vos études que vous avez faites à l'école polytechnique et du corps dont vous êtes issu, le corps des ponts et chaussées. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique, une histoire de ce corps prestigieux?
L'histoire du corps, elle commence avec une affaire terrible, qui est l'effondrement du pont de Moulins sur l'Allier. Alors, le pont de Moulins a été construit par un grand architecte favori de Louis XIV, qui était Jules Ardoin Mansart. Et les crues de l'Allier, qui sont des crues très violentes, il y a deux sortes de crues, alors je me souviens plus comment ils les appellent, selon qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest du Massif central, et sont très violentes. Et le pont de Moulins a été emporté parce qu'il avait un débouché beaucoup trop faible. Alors il y a d'ailleurs une histoire qui est racontée, je pense, par Saint-Simon, mais qui est complètement fausse, qui prétend que Ardoin Mansart se précipite chez Louis XIV en lui disant « Sire, 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 avez-vous des nouvelles de mon pont de Moulins ?» Et Louis XIV lui aurait répondu « Monsieur, aux dernières nouvelles, il est à Nantes. » Alors ceci dit, ça a quand même provoqué des réactions. Jusqu'à cette époque, si on ne faisait pas tellement de différence entre ingénieur et architecte, on parlait plutôt de maître d'œuvre de façon générale. Voilà. Et donc le corps des ponts et chaussées a été créé à partir de là, je crois que c'est en 1716, mais je ne peux pas vous garantir la date. Et l'école des ponts et chaussées a été créée en 1747. Elle a été installée dans un hôtel particulier, pas celui qui était la rue des Saints-Pères, mais un autre avant. Et le premier directeur de l'école nationale des ponts et chaussées, c'était Jean-Rodolphe Pironnet, qui est le constructeur du pont de la Concorde, du pont de Nantes, du pont de Neuilly, enfin un très très grand constructeur. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une véritable formation d'ingénieurs pour construire des ponts et des chaussées. Et le XVIIIe siècle, l'aménagement de la France au XVIIIe siècle a été construit, a été assuré par les ingénieurs des ponts et chaussées. C'est par exemple là qu'on a fait la grande traversée de Tours avec l'avenue de Gramont et le pont Wilson. Hein. Et dans beaucoup d'endroits, c'est donc véritablement le début d'un urbanisme qui a été vraiment fait par le corps des ponts et chaussées à l'époque. Et les choses ont un petit peu changé au XIXe siècle. Au XVIIIe, il y a eu des progrès. Enfin, les ponts de Fraissinet faisaient de très gros progrès par rapport aux ponts en maçonnerie qu'on avait ailleurs, parce qu'ils faisaient ils cintraient toute la rivière en même temps, de façon à ce qu'on ait moins de piles pour être moins sensible aux crues. Le pont de Moulins a été reconstruit par Regemorte, qui lui n'était pas des ponts de chaussée, mais il était l'ingénieur des turcis élevés de la Loire, voilà. Et qui a réinventé, parce que les Romains le faisaient déjà, les radiers. C'est-à-dire de faire une espèce de pavage résistant sous le pont, de façon à ce que les crues n'emmènent pas le sable qui est dessous, ce qui mettait en danger les fondations. Et puis alors, ça a continué, bien sûr, avec des tas d'ingénieurs très, très brillants, hein, comme des gens comme Navier, bon. Il n'y avait pas autant d'imagination. Je dirais qu'au XVIIIe siècle, le corps des ponts s'était peut-être un peu encrouté. Et il y a eu une révolution qui est venue automatiquement avec le développement de la construction métallique, hein, qui a fait que il y a eu d'autres sources, si vous voulez, d'origine de projet qui a été fait par des gens qui venaient promouvoir la construction métallique.
Elle date de quand, cette révolution?
Alors, cette révolution, ça a démarré à la fin du 18e en Angleterre, tout en sachant, il faut savoir aussi que les Chinois faisaient déjà des ponts suspendus bien avant, Hein. Il y a même des moines tibétains. Les premiers à avoir fait des ponts suspendus, c'est les moines tibétains. Je crois qu'au 6e siècle, un truc comme ça. Donc, mais ce qu'on considère comme l'essor de la construction métallique, c'est l'Angleterre au 18e. Et c'est passé un peu en France, hein, en particulier sous l'impulsion de Napoléon, qui était consul, qui a su qu'il y avait un développement de ça en Angleterre, et qui a exigé qu'on construise un pont en fonte, puisque c'est de la fonte au départ. La passerelle des Arts, c'est une décision de Napoléon pour essayer de ne pas prendre de retard sur l'Angleterre. Et donc, au 19e, on a vu apparaître des ponts à péage construits par des entrepreneurs qui récupéraient l'argent, soit par les autorités locales, soit par des péages. Enfin, donc, ça a beaucoup changé. Et puis, au 20e siècle, ça a été même à partir du milieu du 19e, le développement du béton armé. Puis à partir de 1930 à peu près, le béton précontraint développé par Freycinet. Donc, alors avec à chaque fois des périodes où le corps des ponts et chaussées était un peu en retrait sur l'innovation, et puis au contraire des périodes pendant lesquelles il était plutôt à la pointe et poussé à des développements.
Qu'est-ce que c'est, Michel Verlogeux, le béton précontraint? Parce que ça a été une révolution. Mais
alors voilà, c'est le béton ne résiste pas à la traction. C'est-à-dire que si vous prenez un bloc de béton, vous appuyez dessus, bah, il va être comprimé et il résiste très bien. Il est extrêmement efficace pour résister à la compression. Par contre, si vous tendez une pièce en béton, elle va très vite se fissurer, puis quand elle est fissurée, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, comment faire? Et donc, au 19e siècle, les ingénieurs ont imaginé des ingénieurs, et même au départ, ce n'était pas des ingénieurs, c'était des gens qui étaient des praticiens, hein, un jardinier, des gens comme ça, ont imaginé de mettre des fils de fer dans le béton. Et ce fil de fer, il va prendre la traction que le béton ne prend pas. Voilà, parce que il va rester lié au béton par adhérence de part et d'autre des fissures, et il va assurer la résistance. Et donc, il y a des ingénieurs, petit à petit, qui, sans comprendre vraiment comment ça marchait, on développait ce qu'on appelait des systèmes d'armature. Ils faisaient des dessins et on mettait des armatures et le système fonctionnait comme ça. Le plus célèbre, c'est s'appelle Enbic. Il a fait des choses assez extraordinaires. Il y a une maison Enbic à Bourg-la-Reine, par exemple, hein, qui est en béton armé. Et donc, si vous voulez, c'était la façon d'assurer que le béton armé par ses aciers résistent en flexion et reprennent les efforts de traction parce que
bon. Et la France a été pionnière dans le béton,
oui,
précontraint.
Armé d'abord.
Armé d'abord, puis
précontraint. Mmh. Alors, précontraint, c'est une idée différente. Il y a des gens qui ont imaginé de tendre un peu ces aciers parce que ça les embêtait quand même que le béton fissure, parce que le béton armé, il fissure. Les armatures dans le béton armé ne travaillent qu'à partir du moment où il y a une fissure. Tant qu'il n'y a pas de fissure, il y a rien, il y a très peu de choses dans les armatures. Mais dès qu'il y a ça s'ouvre, eh bien, l'ouverture de la fissure va tendre les aciers et eux, ils vont prendre la charge. L'idée, c'est de dire, ben voilà, si je tends ces aciers, eh bien, la fissure s'ouvrira pas, hein, parce que les gens, ça les chatouiller un peu qu'il y ait des fissures. Malheureusement, il y a des choses un peu compliquées, on va pas rentrer dans les détails, qui font que si on tendait un peu les aciers, cette tension disparaissait avec le temps. Donc l'idée, ça a été de mettre dans une structure en béton, de mettre des câbles dans des gaines, dans des tubes, si vous voulez, et de tendre ces câbles et de les bloquer. Les tendre très fort, de façon à ce que les évolutions dans le temps ne fassent pas disparaître cette tension. Et c'est le béton précontraint qui a été imaginé par Eugène Freycinet. Donc ça consiste, c'est l'image classique, c'est la pile de bouquins. Si vous avez une pile de bouquins, vous les mettez comme ça, bien à plat, vous mettez une charge dessus, ça tient. Si vous prenez la pile de bouquins, vous la mettez comme ça, si vous la serrez pas, il se casse la gueule. Eh bien, le serrage, c'est la précontrainte.
Alors, tout ça, vous l'apprenez à Polytechnique?
Alors, d'abord, les Polytechniques, c'est 2 ans.
Oui.
Et ça, c'est à l'école des ponts. Donc, il faut reprendre un tout petit peu. L'école polytechnique, c'est une école où on a surtout des enseignements très théoriques. Mathématiques, physique, chimie, mécanique. Alors, moi, j'étais plutôt mécanicien. La physique, c'est plutôt vers la physique nucléaire, ces choses-là. Moi, je suis plutôt un mécanicien, c'est-à-dire... et là, j'ai eu la chance d'avoir de très grands enseignants. C'était un professeur de mécanique qui s'appelait Jean Mandel, et dont l'un des adjoints était Jean Salançon, qui est toujours lui vivant et qui a été président de l'Académie des sciences et qui est toujours un bon copain. Voilà. Donc, j'ai eu d'excellents enseignants de mécanique, et moi, je souhaitais faire de la mécanique derrière. Voilà. Et j'ajoute une chose, bien sûr. À l'école polytechnique, on avait aussi un cours d'architecture.
Pour tout le monde?
Pour tout le monde. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas d'option. D'accord. Tout le monde passait dans le même trou, hein. Voilà. Et donc, on avait un prof d'architecture qui s'appelait Auguste Arsac, avec qui j'ai travaillé après, et qui avait nous montré des diapos. Le cours, c'était, il n'essayait pas de, comment dirais-je, il n'essayait pas de définir une doctrine ou quoi que ce soit, il nous montrait des diapos, et sa phrase la plus classique, c'était, c'est à la fois très simple mais très beau. Voilà, c'était, voilà, bon. Alors Arsac, il a beaucoup travaillé, il avait beaucoup travaillé dans les colonies, puis quand il n'y en a plus, il est rentré en France, il avait une agence qui était Boulevard Saint-Germain, voilà, bon. Et il s'est lancé dans les ponts. C'est lui qui a été l'architecte du pont de l'Alma, hein, qui l'a fait avec un ingénieur qui s'appelle Jean-François Coste, qui a un très très beau pont, pour moi, un pont très intelligent.
Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Virlogeux, un pont très intelligent?
Eh ben, si vous voulez, le pont de l'Alma, le premier, il a été construit sous l'Empire, puisque la bataille de l'Alma, hein, voilà, vous savez, bon. Mais là, les ingénieurs n'ont pas eu de peau, parce que tous les ponts de la Seine s'appuient sur le calcaire grossier, qui est une couche très résistante à relativement faible profondeur. Et les ingénieurs du 19e siècle, là, sous Napoléon III, n'ont pas fait preuve de beaucoup d'intelligence. Ils ont fait des fondations au même niveau que les autres ponts de Paris. Voilà. Manque de peau, à cet endroit-là, le calcaire grossier, il est plus profond, et là, c'est de l'argile. Et donc, si vous voulez, le pont de l'Alma a tassé, 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 tout le monde connaît l'histoire, et il a surtout tassé plus à l'aval qu'à l'amont, si bien que quand il y avait des bonnes crues, il y avait des péniches qui arrivaient, qui se retrouvaient bloquées sous le pont. En plus, vous savez que sur le pont de l'Alma, il y avait 4 statues qui représentaient les soldats de la guerre de Crimée. Il y avait le fusillé de Vincennes, le je ne sais plus combienième soldat de ligne, un 4e que j'ai oublié, et le zouave. Voilà, bon. Alors évidemment, le zouave, maintenant, avec le pont qui baissait, ça marchait pas non plus, parce que on ne pouvait plus relever le niveau des crues. Alors, si vous voulez, le pont de l'Alma, il est dans une courbe de la Seine. Et donc, l'idée, ça a été de faire un pont qui n'était pas symétrique du tout, de façon à ce que les bateaux puissent prendre le virage comme il faut. Et en plus, c'est un pont extrêmement mince, hein, c'est un pont à tablier, je pense, orthotrope, hein, c'est-à-dire avec un purement en acier.
Tablier, c'est là où passent les voitures.
Et les piétons. Mmh. Il y a des très gros trottoirs sur le pont d'Alma, avec de très beaux garde-corps, entre parenthèses, transparents. Et donc là, c'est un ouvrage qui est très mince, très élégant pour moi, et qui répond à un besoin fonctionnel, c'est-à-dire faire en sorte que les bateaux puissent prendre leur virage tranquillement, sans risquer de taper dans une pile.
Donc Auguste Arsac
a dessiné
le deuxième pont de l'Alma.
Avec Jean-François, moi je ne sais pas quelle est la part de chacun. Donc Arsac était un prof d'architecture. Donc ensuite je suis passé...
Est-ce que vous étiez bon, pardon Michel Virlogeux, en dessin? Vous étiez un bon dessinateur?
Moyen. Mon frère Denis était un très grand dessinateur. Moi je n'étais qu'un dessinateur moyen. Ceci dit, je fais beaucoup de dessins. Tous mes projets sont supportés par des petits dessins. Mais ce ne sont pas des beaux dessins. Ce ne sont pas des dessins un peu d'artistes comme peuvent le faire un architecte. Moi, ce sont des dessins qui sont là pour montrer où on met la matière. C'est l'art de l'ingénieur, c'est l'art d'organiser la matière. Et ça, je fais des dessins pour montrer où on la met, où il faut la mettre.
Mais vous sentiez quand même que vous aviez un sens esthétique
Non, pas encore. Le sens esthétique, il est venu après. Passant de l'école polytechnique à l'école des ponts, on a eu là c'était la première fois, puisque c'est post-68, c'est là qu'on a commencé à avoir des options. Et là, j'ai eu une grande hésitation. Je vais raconter l'histoire parce qu'elle pense aux de cacahuètes quand même. J'avais, envie d'aller dans une option qui s'appelle aménagement du territoire, ça c'était l'influence de mon père. Et puis, il y a des copains qui sont venus, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu déconnes. Enfin, alors, je dis, non, je vais me faire tuer, mais tous les cossards sont là. Qu'est-ce que tu viens? Viens dans une option un peu technique, viens aux ouvrages d'art. Je dis, vous avez raison, je suis allé aux ouvrages d'art. Et donc, c'est pour que les carrières, ça va quand même, c'est quelquefois bizarre, hein. Voilà. Donc, je suis parti dans l'option ouvrage d'art avec tout un tas de copains, dont aucun ne fait plus d'ouvrage d'art aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, on est là. Et là, on avait un cours de pont, qui était fait par un ingénieur, qui a eu une assez forte responsabilité, mais qui était pas un bon ingénieur. Par contre, c'était un très bon pédagogue. Et, il nous a fait un cours qui était plutôt un cours sur l'histoire des ponts que sur la conception des ponts, et qui m'a passionné. Et là, si vous voulez, Arsac plus Grazza, ça m'a donné réellement l'envie de faire des ponts et de faire des beaux ponts. Et j'ai commencé, mais ça a été très lent, très progressif, ça vient pas comme ça, à chercher de plus en plus à donner à mes projets une certaine originalité et à faire en sorte de rendre possible, de faire quelque chose qui soit évidemment résistant, économique, mais qui soit en même temps élégant. Et c'est venu petit à petit, avec une histoire un peu compliquée encore, avec Auguste Arsac, parce que quand je suis rentré assez vite, entre autres choses, j'ai eu à faire un avant-projet pour un pont sur la Rance. Et j'avais fait un projet très fonctionnel, qui posait aucun problème technique, bien sûr, très fonctionnel. Et le projet a été rejeté par la commission des sites avec des arguments qui étaient vraiment le pont, il est pas à l'échelle de la montagne de chaque côté. Alors la montagne, elle culmine à 60 mètres d'altitude au-dessus de la mer, donc c'est vraiment râler pâquerettes, mais ça fait rien. Bon, donc il a fallu recommencer le projet. Et là, mon patron, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons patrons, il m'a dit, faut prendre un architecte, tu devrais appeler Arsac. Donc j'appelle Arsac, qui est venu tout de suite. Et il a réaménagé le projet en privilégiant la travée centrale, en créant une certaine originalité dans les formes. Enfin bon, bref. On est reparti à la commission des sites, si vous voulez. Et là, il a repris un discours auquel je n'ai pas compris grand-chose, en tournant un peu en spirale autour du pot. Et finalement, le projet a été adopté. Mais il n'y avait pas de sous, et donc le projet est resté dans les placards. Et puis en 1986, tout début de l'année, le président du Conseil général des Côtes du Nord, qui était un socialiste, a prévenu la direction des routes qu'il aimerait bien qu'on fasse très rapidement sortir le projet du pont de la Rance, parce qu'il se doutait qu'en mars, ils allaient perdre les élections. Et donc il a fallu faire un nouveau projet. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps. En plus, à ce moment-là, j'ai dit, on peut pas faire un projet comme celui qu'on avait fait en 76. Il faut absolument faire quelque chose d'un peu plus original. On va faire un pont en arc.
Un pont en arc?
Pont en arc, c'est une voûte, une grande voûte, mais qui franchit la Rance d'un seul coup. Voilà. Bon. Et on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a décidé de faire le projet, de s'organiser entre le CETRA et un bureau d'études privées. Et on a fait ça au canon, hein, dans un délai qui était pas normal, fou. On a fait une estimation, et là, je veux dire très honnêtement qu'on s'est un petit peu trompé, parce que aucun des deux de côté on a oublié une partie du budget. Donc, je me suis fait taper sur les doigts après quand on a eu le truc. Ça c'était pas très très bien. Et puis on a fait une deuxième erreur. Alors ça fait partie des grandes fautes de ma vie. Quand on avait fait le projet en 76, ce projet il est à l'amont du barrage de la Rance. On avait toutes les données, donc je savais que le niveau de l'eau, il allait de la côte 2, c'est-à-dire à peine au-dessus de la mer, à la côte 14 et tout, donc 2 plus 14 égale 16, divisé par 2, 8, donc le niveau moyen c'est 8. Voilà. Bon, et donc le dessin, il était fait pour 8, et quand on a refait au canon notre projet en 86, on est reparti sur l'eau à la côte 8. Ben, manque de peau, hein, on a été trahi par la ménagère de 50 ans. C'est-à-dire que l'EDF dirige le barrage de la Rance de façon à ce qu'à 5 heures de l'après-midi, quand la ménagère de base rentre chez elle et met en marche tous les appareils électriques, il y ait de l'eau dans le barrage. Ouais. Et donc le barrage, on ne le voit à la côte 8 que la nuit. Parce que dans la journée, il a de l'eau à la gueule pour qu'on puisse mettre toutes les machines électriques à temps. Voilà. Donc On a un atterrissage de l'arc qui n'est pas très très bien. Et en plus, évidemment, au point de vue de la construction, comme on avait allé construire les naissances de l'arc dans l'eau, c'est plus compliqué qu'à terre. Et donc, on a eu droit à une réclamation derrière. Donc, j'ai pris un deuxième coup de règle sur les doigts à cause de cette erreur. Une faute d'ingénieur, ne pas avoir correctement réanalysé toutes les données de base.
Michel Virlogeu, quels sont les ouvrages d'art? Que concerne l'expression ouvrage d'art? Donc les ponts et quoi d'autre?
Alors, les ouvrages d'art, c'est les ponts et les grands murs de soutènement. C'est tout ce qui permet, tout ce qui n'est pas les parties courantes de la route. Parce qu'on est dans la route, bon alors, par extension, les chemins de fer, voire les aqueducs, si vous voulez. Hein, et c'est les ouvrages d'art, c'est tout ce qui n'est pas la route proprement dite. Donc ça va être les petits dallos, c'est-à-dire les tout petits passages, les micro-ponts là qui permettent de faire passer l'eau d'un fossé à l'autre et d'évacuer vers les pentes, les ponts et les grands murs de soutènement qui sont des ouvrages extrêmement difficiles auxquels je connais rien, et les tunnels.
Auxquels vous ne connaissez rien?
Les oui. soutènements, oui. Pas du tout.
Un ingénieur n'est pas polyvalent.
Ah non, alors voilà, vous connaissez la différence entre un spécialiste et un généraliste. Généraliste, c'est quelqu'un qui connaît rien sur tout, et généraliste, c'est quelqu'un qui connaît tout sur rien. Donc, si vous voulez, il faut voir. Moi, je suis un concepteur et un généraliste des ponts. Je ne connais pas tout sur les ponts. Hein, je ne suis pas un homme de fondation. J'ai quand même un minimum de connaissances pour savoir à peu près ce qu'il faut faire, mais je fais appel à des spécialistes de fondation, spécialistes de mécanique des sols. Le vent, je connais pas mal de choses sur le vent, mais on fait appel à un aérodynamicien, on fait des études en soufflerie, on va faire appel à des spécialistes de sismique. On a des spécialistes de matériel, on a des spécialistes, par exemple, pour tout un tas d'équipements, les joints de chaussée, les appareils d'appui. Tout ça, il faut que l'ingénieur concepteur maîtrise ce domaine, mais il connaît pas tout. Et il a besoin de beaucoup de spécialistes.
Et ces spécialistes-là, aérodynamiques, ils existaient, ils étaient formés dans les années 70?
Ah ben, il y en avait déjà, bien sûr, oui. Alors, si vous prenez l'exemple du vent, on est évidemment beaucoup plus compétent aujourd'hui que qu'on l'était à l'époque. Aujourd'hui, on construit des ponts de plus en plus grands. Il y a beaucoup de raisons à ça, si vous voulez, mais l'une des raisons, c'est une bien meilleure maîtrise des actions naturelles dimensionnantes, c'est-à-dire le vent et les séismes. Quand j'ai commencé ma carrière en 74, les séismes, on ne connaissait pas grand-chose et le vent pas grand-chose non plus. Le vent, à l'époque, on disait, voilà, c'est 200 kilos par mètre carré, hein, la puissance, le vent sur le côté des ponts. Aujourd'hui, pour faire des grands ponts, alors évidemment, il y avait des gens qui avaient déjà fait beaucoup de choses, mais réellement, la maîtrise des actions naturelles, c'est quelque chose qui est relativement récent.
Et vous avez parlé, Michel Virlogeu, de la commission des sites qui vous avait donné des coups de règle sur le bout des doigts.
Oui.
On a toujours à faire, vous avez toujours à faire, et les ingénieurs actuels ont toujours à faire à la commission des sites.
Alors, les ingénieurs et les architectes, parce que bien entendu, on amène l'architecte. Mmh. Alors, ça dépend, il faut que le site soit classé, bien sûr. Hein. Si le site n'est pas classé, il n'y a pas de commission des sites. Donc, les sites classés, ça peut être soit des sites naturels, comme c'était le cas pour le pont de la Rance, comme ça peut être aussi la proximité d'un monument historique. Ouais. Par exemple, j'avais fait un beau projet pour le pont de Tarascon, en face du château du roi René, mais là, on s'est fait assassiner par l'architecte des sites et Madame le maire de Tarascon, qui m'a dit un jour, votre pont à Auban, vous allez vous le faire ailleurs. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils ont un pont qui est assez banal. Mais bon, alors c'est un choix. Le château du roi René est une splendeur, bien sûr, hein, le château de Tarascon. Non, on l'a pas fait. Voilà, donc c'est un choix à faire. Il y a quelquefois des réactions très bizarres. Hein. Je veux dire que vous allez à Düsseldorf, vous allez voir une superbe série de ponts à Auban. Et un jour à Lyon, on avait fait un projet, j'étais avec Renzo Piano, hein, pas n'importe qui. Notre projet a été mis à la poubelle en 3 minutes parce que il y a des architectes locaux qui ont dit non, on ne fait pas de pont au banc en ville. Bon.
Et là, il n'y a rien à dire. On ne peut pas convaincre.
On ne peut rien faire. J'ai juste fait une lettre au maire de Lyon en disant que c'était un peu triste d'être aussi bouché. Mais bon, Ce qui est d'autant plus rigolo que c'est lui qui avait appelé Renzo Piano. Ça, c'est autre chose.
Qui est un grand architecte, qui est l'architecte de Beaubourg.
Oui.
Du Centre Pompidou. Vous avez dit, Michel Virlogeux, que votre professeur d'architecture à l'École Polytechnique aimait ce qui était simple et beau.
Oui.
Est-ce que vous avez développé un goût pour la peinture ou pour l'architecture qui ressemble à ces deux principes-là? Est-ce que vous vous êtes ensuite fait une culture picturale?
Alors, picturale, je suis plutôt... J'aurais tendance à m'arrêter aux impressionnistes, hein, s'il faut être clair. Moi, je suis, j'aime énormément la peinture italienne de la Renaissance, la peinture flamande. Bon, après, beaucoup les impressionnistes. La peinture moderne, je veux dire, me laisse assez, assez rêveur. Hein, ça me passionne pas. Bon. Ouais, quand je dis à des amis que j'aime pas Picasso,
ouais, ça, c'est ce que j'allais vous demander.
Je me fais tuer, mais bon, ça m'est égal. C'est mon style. Alors en architecture, c'est un peu pareil. Je suis quand même relativement classique, et en fait, c'est bien dans la ligne de ce que fait Arsac ou de ce que enfin, je trouve que Piano est quand même quelqu'un. Alors dans le Centre Pompidou, c'est autre chose, mais Piano, il fait quand même aussi des choses assez simples et très bien. Et Foster, bon, on reparlera sûrement de Foster à un moment ou à un autre, mais Foster, c'est quand même quelqu'un qui aime une certaine rigueur, hein, une certaine simplicité apparente, une simplicité. Et donc, ce que disait Arsac, très simple mais très beau, c'est vraiment ce que je pense. Une certaine rigueur, une certaine recherche de la rigueur. Quand on fait un projet, on en reparlera peut-être, je sais pas, mais on développe quelque chose, puis quelquefois, à un moment, on arrive sur une difficulté. Et là, ce qu'il faut, c'est pas...
À cause du sol, à cause de...
Non, parce qu'on, par exemple, on se rend compte qu'il y a un effort qu'on a mal évalué, qu'il y a quelque chose qui marchera pas, qui va coincer quelque part. Alors, il y a des solutions qui consistent à mettre une rustine, si vous voulez, mais ça, c'est pas non. Il faut repartir à zéro et recommencer en intégrant cette difficulté pour que la conception intègre ça et le règle tout en restant dans la simplicité et dans la pureté.
Est-ce que ça veut dire, Michel Virlogeux, que puisque vous aimez ce qui est simple et beau, vous avez du mal avec l'architecture contemporaine, audacieuse, qui...
C'est pas forcément ma tasse de thé, pour être clair. Alors, ceci dit, l'architecture contemporaine, il y a des choses très simples et très belles. Hein. Moi, je vois des trucs superbes. On a fait des voûtes, des coques extraordinaires. Moi, je vois le Foster a fait un musée de l'espace. Je crois que c'est à Goodwood, je crois, en Angleterre. Hein. C'est une grande coque et dessous, il y a des modèles d'avions, des trucs comme ça. C'est d'une simplicité, c'est extrêmement beau. Si vous allez sur l'autoroute, sur la Nationale 20 vers Paris, là, il y a un jardin land quelconque, là, avec une coque. C'est superbe, ces coques. C'est extrêmement beau, mais c'est d'une pureté magique.
Merci, Michel Virlogeux. À demain soir.
À demain soir, madame.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Michel Virlogeux. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Yann Fressy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.